Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Louis.
Et bonjour Liselotte, bonjour à tous. Commençons par le sujet qui continue de faire trembler tout le monde, les fichiers Epstein. BFM invite un prof de Sciences Po, Fabrice Epelboin, pour mettre un peu de clarté dans l'affaire. Sauf que voilà, Epelboin connaît le sujet et jette un froid face à des journalistes pour le moins gênés.
Quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. L'affaire du Safari Club est très intéressante là-dessus.
C'est vous dites c'est le système quotidien,
oui.
Vraiment ?
Oui. Ah, c'est d'une banalité.
C'est-à-dire mêler pouvoir, sexe, agent, criminalité, pour vous, c'est banal.
C'est absolument banal.
Dites-nous plus, parce que là, ça, je ne connais pas de dirigeants politiques, forcément, qui sont mêlés dans tous les réseaux pédocriminels.
Vous avez peut-être zappé des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais... Dans les années 70, on a eu une affaire qui s'appelait la Commission Church aux États-Unis, qui a révélé les pratiques absolument abjectes de la CIA, infiltration de la presse, manipulation de l'opinion publique, assassinat politique.
Donc pour vous, c'est pas cette affaire Epstein, finalement, c'est dans la lignée des choses, ça ne vous étonne pas ?
Epstein, dans l'histoire, était, entre son passage à Bernstein et le moment où il est devenu indépendant, était l'un des grands magiciens de la finance de l'époque pour déplacer des fonds occultes.
Ça fait toujours plaisir, ces têtes figées face à tant d'informations. Mais Fabrice Epelboin ne s'arrête pas là.
Donc vous arrivez à quelle conclusion, pardon ?
Que c'est comme ça que fonctionnent les démocraties.
Alors, Audeloyo, je vous vois depuis tout à l'heure, effectivement, être assez...
À moins qu'on soit devenu blanc comme neige depuis cette époque.
Alors, on va écouter Audeloyo vous répondre.
Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste... Là, on parle aussi de pédocriminalité.
Mais on s'en fout, c'est un détail.
Mais c'est pas un détail du tout.
On ne peut pas dire ça sur un plateau de télévision. C'est pas un détail, la pédocriminalité.
De ce que ça révèle.
Excusez-moi, des dizaines et des milliers de victimes dont on retire le passeport et qui sont violées, c'est pas un détail de l'histoire.
Si, c'est un arbre qui cache la forêt. Le réel problème qui pose problème aux démocraties, c'est le fonctionnement interne dans lequel ces filles sont juste une façon de faire du business. À l'époque du Safari Club, les jeunes filles étaient dans l'apanage du fameux Adnan Khashoggi, l'oncle de Jamal Khashoggi, qui était le grand chef d'orchestre de tout ça.
D'accord.
Et qui donnait des fêtes prestigieuses.
Bon. Alors, effectivement, pour les Français qui vous écoutent, Raphaël Grabli, on a l'impression qu'effectivement, tout ça fait partie d'un grand, grand, grand système. Et déjà que les Français ont tendance à être un peu complotistes en ce moment.
Mais ce n'est pas du complotisme, c'est documenté. Il y a une douzaine de bouquins qui parlent de ça. Des bouquins écrits par des confrères à vous, comme Christine Ockrent, dans les années 80, qui a recueilli les mémoires du patron des renseignements français de l'époque.
Bon, alors on va laisser la parole à Raphaël Grabli. Vous pensez effectivement, Raphaël, que ce système ne date pas d'hier, finalement ?
C'est pas... Enfin, je suis un peu gêné par ce qui vient d'être dit.
Voilà, j'ai commencé cette chronique en prononçant Epstein, et non Epstein, comme le font les médias. Mais selon l'avocat Alain Jakubowicz, je n'aurais peut-être pas dû.
Pardon, mais enfin, c'est pain béni, si je puis me permettre, pour un certain nombre de complotistes, d'antisémites viscéraux, qui, effectivement... Epstein, mais dites-moi, il ne serait pas un peu juif, ce monsieur ?
Je suis d'ailleurs...
Et par conséquent, est-ce que ça ne serait pas la preuve que ce que nous disons depuis des lustres, c'est que ces gens-là, quand même...
L'accusation d'antisémitisme, un grand classique. On sent quand même que ça se tend, au fil des révélations. Certains veulent même y échapper, comme Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui s'énerve quand on lui demande pourquoi elle s'oppose à une commission parlementaire sur les fichiers.
Madame la Présidente, bonjour. Pourquoi s'opposer à la commission d'enquête relevant de la...
Non, mais c'est pas le sujet, excusez-moi.
Ce sont des questions des Français.
Et alors ? Vous êtes là pour parler gaspillage alimentaire parce que vous voyez, on organise des formidables événements à l'Assemblée nationale avec des parlementaires qui bossent pendant des années sur des sujets, qui votent des lois, qui les évaluent, qui réunissent les acteurs.
Vous ne voulez pas répondre à ma question. Pourquoi vous refusez la commission d'enquête concernant l'affaire Epstein, madame ?
Là, je vous parle de gaspillage alimentaire et j'adorerais, mais j'aimerais tellement que vous vous intéressiez au vrai sujet qui intéresse les Français, le gaspillage alimentaire.
Voilà, pas de commission, circuler.
Il y a aussi le gaspillage parlementaire.
Exactement. Voilà, pas de commission, attention, circuler le plus savoureux reste malgré tout Pascal Pro, qui panique quand Vincent Hervouet plaisante sur le fait que son nom pourrait être inscrit dans les mails.
Plongez-vous dans les archives diffusées par le ministère de la Justice, Gov. Allez sur Gov.
Bon, oui,
vous trouvez votre nom, sûrement.
Oh non.
Mais vous trouvez toutes, mais il y a des milliers de noms qui sont cités.
S'il vous plaît. Comment
les
dire
fournisseurs.
Non, mais franchement, n'ironisez pas.
Il a déjà ses problèmes.
On est. Il y a plein de gens qui prennent. Attendez, il y a plein de gens qui prennent ça au premier degré. Donc alors, faisons attention, non, je veux dire, Vincent, non, parce que là, c'est pas drôle.
Non, mais c'est pas drôle.
Pardonnez-moi,
non, mais c'est pas drôle. C'est pas grave.
Personne ne veut qu'on parle d'Epstein, personne ne veut de commission, et quand on en parle, c'est soit le malaise, soit la fuite, ou carrément l'accusation d'antisémitisme. Deuxième sujet de panique, la violence. Mais pas n'importe quelle violence. La violence des Antifa. Quand un militant nationaliste est mort ce week-end après avoir été tabassé sauvagement par l'extrême gauche, on a pu voir passer quelques tweets de politiques indignés, mais rien de comparable quand on remonte le temps et surtout quand on inverse les rôles. En 2013, pour l'antifa Clément Méric, toute la classe politique, je dis bien toute, avait fait front dès le lendemain.
Membre du groupe Action antifasciste, Clément Méric était un militant actif. Son agression est clairement politique pour le parti de gauche qui pointe sévèrement du doigt l'extrême droite.
Finalement, du fait de la dédiabolisation du FN, être d'extrême droite deviendrait une idée comme une autre. Et comme ces gens sont violents dans une nostalgie de ces régimes nazis fascistes, ils pensent qu'il faut faire terroriser, il faut terroriser les gens de gauche.
Le FN, quant à lui, rejette les accusations et demande à éviter tout amalgame.
Le Front National n'a aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec cette agression. Ces actes sont inadmissibles, évidemment insupportables. Et encore une fois, je vous dis, la mort d'un jeune homme est terrible.
Les sénateurs, ce matin, ont dénoncé à l'unanimité un assassinat abominable. Toute la classe politique condamne fermement cette agression.
La violence est un cancer pour la démocratie. Et moi j'appelle au rassemblement face à ça de toutes les forces démocratiques et républicaines qui seules rassemblées, peuvent faire face à ce déferlement-là.
À droite encore, Jean-François Copé parle d'agression barbare et veut que les auteurs soient punis le plus vite possible. Le PS, par la voix de son premier secrétaire, exige une réponse forte à cette affaire.
Je renouvelle donc l'appel à la dissolution des groupes d'extrême droite violents. Et je demande à toutes les formations politiques de se joindre à cet appel. Il est temps de mettre ces groupes hors d'état de nuire.
Comme Jean-Louis Borloo, président de l'UDI, de nombreux politiques adressent leurs sincères condoléances à la famille de Clément Méric.
C'était il y a 13 ans, déjà. Et croyez-moi, à cette époque, je m'en souviens très bien, il était absolument impensable d'oser critiquer même légèrement la mouvance antifasciste ou de remettre en cause la version des faits. Tout était verrouillé. Aujourd'hui, beaucoup se permettent encore de cracher sur la mémoire de Quentin ou de cibler la sacro-sainte extrême droite. Politique comme le service public.
Je reçois en direct un message d'un journaliste du service public qui nous écoute, qui regarde l'émission et qui me dit à quel point il est lui-même choqué du traitement de l'information par le service public. Et manifestement, les journalistes du service public ont reçu l'ordre pour qualifier Quentin d'utiliser deux formules, soit de le qualifier de militant identitaire, soit de militant nationaliste proche du collectif identitaire Némésis. Voilà les consignes qui ont été passées depuis 3 jours aux journalistes du service public. Ça m'est confirmé là par un de ces journalistes du service public.
Car Quentin n'est finalement pas la bonne victime et que ses tueurs n'ont pas le bon profil. Tueurs qui, selon Sandrine Rousseau, n'ont d'ailleurs jamais frappé personne.
Pourtant, les antifas n'ont jamais frappé personne.
Ah bon ?
Pas dans des meetings, pas ils sont pas allés coller sur les portes.
Ils brûlent des restaurants, ils brûlent des voitures.
Et du côté de Raphaël Arnaud, chef du groupuscule violent La Jeune Garde, les antifas sont blancs comme neige.
Vous ne verrez jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais, un militant ou une militante de la Jeune Garde impliqué dans des affaires de violence ou que sais-je, dans la vie, quoi. Je veux dire, nous, on intervient seulement lorsqu'il y a des violences de l'extrême droite, on répond à ces violences, on les fait reculer, lorsqu'il y a eu des attaques sur, des manifs, des rassemblements, etc. Et on est très fiers de l'avoir fait.
Voilà qui s'apparente à un beau foutage de gueule, mais toujours garder espoir et surtout le sourire, comme le fait notre chroniqueur Jean-Yves Gana, harcelé par deux journalistes de Mediapart pendant sa campagne.
Vous allez comparaître en juin pour incitation à la haine raciale, pour avoir comparé des réfugiés afghans aux cousins des talibans. Ouais. Est-ce qu'on peut être candidat aux élections municipales et en attendre un procès pour incitation à la haine raciale ?
Bah oui, la preuve.
Voilà, le panache, c'est ça. Garder le sourire et l'humour en toutes circonstances, même face à des journalistes venus vous salir. Et pendant que les médias font leur sale boulot, une autre archive, celle où Mathieu Kassovitz nous expliquait sa vision de la France.
On ne peut pas vivre dans une France blanche. Et on ne peut pas vivre dans un monde
séparés. Donc je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race et ils vont se mélanger avec les autres et tant mieux pour nous tous.
Voilà, un bel exemple de haine tolérée dans les grands médias. Crachez autant que vous voudrez sur les Blancs et les Français de souche, vous êtes quasi assuré qu'il ne vous arrivera rien. Et face à ce deux poids deux mesures flagrant, Xavier Hofer, éminent criminologue, révèle pourquoi on protège ces antifas violents.
Systématiquement, depuis que M. Macron est au pouvoir, les gens qui gouvernent avec lui regardent de l'autre côté quand l'extrême gauche commet ses exactions. Systématiquement. Pourquoi ? Parce que le régime de M. Macron est un régime néolibéral et les néolibéraux n'ont qu'un seul ennemi, c'est la droite nationale. Mmh. En conséquence de quoi ? Toutes les provocateurs qui s'appellent Black Bloc, qui s'appellent Jeune Garde, qui s'appellent n'importe comment, seront utiles le jour où la droite nationale sera au pouvoir pour les provocations, comme agents provocateurs. C'est la raison pour laquelle ils les épargnent.
Ils sont protégés. Le pouvoir va même jusqu'à les subventionner pour assurer leur pérennité. Pire, ils permettent sciemment de les élire pendant les élections, comme on a pu le voir en 2024. Raphaël Arnaud n'est pas député par hasard, mais grâce au désistement d'un macroniste. Et quand on leur rappelle cette vérité, ils font comme si ça n'avait jamais existé.
En l'occurrence, Raphaël Arnaud, on le combat et on continuera à le combattre parce qu'il est...
Vous n'avez pas combattu, vous avez retiré votre candidat.
Et parce qu'il s'inscrit hors du champ républicain, c'est une réalité.
Pourquoi vous avez retiré votre candidat?
Il s'est retiré tout seul.
Excusez-moi, en langue de bois, c'est parfait.
Non, mais vous étiez dans les négociations,
J'étais pas dans les négos, mais à quelqu'un comme ça, face à quelqu'un comme ça, on se maintient dans tous les cas de figure.
Attendez, vous étiez dans les négociations?
J'étais pas, mais...
Donc
écoutez... Eh bien donc, écoutez, cette personne s'est déshonorée en se retirant.
Non, mais attendez, vous n'avez pas d'informations précises.
Non, mais je peux penser que cette personne s'est déshonorée en se retirant face à un triple fichier S.
Je l'entends, mais oui, apportez-moi ici la preuve noire sur blanc de ce que vous m'affirmez.
Il s'est retiré.
Voilà. Shannon Sebin, ancienne macroniste devenue aujourd'hui LR, bonnet blanc, blanc bonnet. Ces gens préfèrent nous prendre pour des imbéciles que d'assumer. Et Pascal Croix enfonce le clou en avouant qu'il ne peut, et comme beaucoup de Français, plus écouter tous ces politiques.
Je n'en peux plus de ces petits marquis. Je n'en peux plus de leur ton. Vraiment, je n'en peux plus de je ne sais pas ce que vous en pensez, André Valigny, je n'en peux plus de leur ton. Maintenant, ça devient quasiment physique. Je ne peux plus les entendre. Mais je ne peux pas vous dire autre chose. Pour qui se prennent-ils? Je veux dire, ce sont des gens qui sont payés par nos impôts, on pose des questions et on se fait insulter. Je n'en peux plus. Et je ne suis pas le seul.
La tension monte partout. Henri Guénaud, ancien conseiller de Sarkozy, ne retient plus ses coups et entre en rage contre Macron.
Son problème, c'est qu'il veut laisser un champ de ruines.
Vous pensez qu'il veut laisser
un
champ de ruines?
Oui, il veut laisser un champ de ruines.
C'est-à-dire vous pensez qu'il est attiré par... Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il veut...
Pourquoi il a supprimé le corps préfectoral? Pourquoi il nomme des gens dans l'air du temps à la tête du Conseil d'État et ça ne va pas s'arranger dans la... Pourquoi il nomme Mme Amélie de Montchalin? Pourquoi? Parce qu'il y a au fond la volonté, peut-être inconsciente, mais en tout cas, moi, elle me saute aux yeux, de laisser un champ de ruines. Il détruit toutes les institutions. Il détruit tout ce qui touche. Il détruit l'État, ce qui n'est pas le rôle d'un chef de l'État. Donc, il y a une espèce de trahison de la fonction.
Et de son côté, le journaliste François Langlais le confirme et avoue que Macron a ruiné les finances françaises et maintenant, il veut faire la même chose pour l'Europe.
On ne sait déjà pas comment on va rembourser l'emprunt Covid. À partir de 2028, 30 milliards d'euros vont tomber tous les ans. On ne sait pas comment on va rembourser. Il y a un autre emprunt dont on ne parle pas. Il a été confirmé il y a 4 jours. C'est quelques 90 milliards d'euros qui vont être utilisés pour aider l'Ukraine. Un Covid, deux l'Ukraine... Trois, l'innovation. Bah, les copains, c'est la fête. Jusqu'où ça va nous emmener? Et finalement, quand on lit le président nous conseiller ça, on se dit, bon, il a ruiné les finances publiques françaises, il veut faire la même chose aujourd'hui en Europe.
Le diagnostic est unanime. Destruction, ruine, coup d'état administratif. Et quatrième panique, la plus profonde, celle qui explique toutes les autres. Charles Gave la résume avec une clarté implacable.
C'est gouverné par des traîtres. Et on ne sait pas comment s'en débarrasser, puisqu'ils ont bâti des systèmes où on ne peut pas s'en débarrasser.
Regardez, les dernières élections législatives, au deuxième tour, ils sont tous mis d'accord, LFI a voté pour les Républicains, etc., pour que le Rassemblement National n'arrive pas au pouvoir. Le parti qui avait le plus de voix, on s'est débrouillé pour en faisant des agences contre nature pour qu'ils ne puissent pas arriver au pouvoir. Mais c'est un déni de démocratie.
La France est gouvernée par des traîtres. Les affaires Epstein et Quentin n'en sont que les révélateurs qui les démasquent encore un peu plus. Dans les deux cas, et comme je l'évoquais la semaine dernière, c'est un fil que l'on tire. Un fil qui révèle leur complicité avec les pires criminels et la racaille antifasciste, toujours dans ce même but, détruire la France. Pensez-y pour les prochaines élections.
Merci voilà, Louis.
Merci.
Ligne droite, l'analyse.
On poursuit avec l'analyse de Xavier Van Lierde. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Lislotte.
Nous sommes avec Richard de Sèze également, chers auditeurs. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Xavier Van Lierde, vous souhaitez nous donner des nouvelles de nos amis britanniques et plus spécialement des récentes décisions de son ministère de la Santé. Dites-nous tout.
Bien oui, Lislotte, parce que le ministère de la Santé britannique, ou plutôt le système de santé britannique, qu'on appelle là-bas le National Health Service, a décidé, figurez-vous, de ne plus décourager les mariages entre cousins. Une décision un peu surprenante, au motif qu'il ne faudrait pas stigmatiser une pratique considérée comme normale dans certaines cultures. Si je voulais faire de façon un peu rapide, je dirais qu'on ne décourage plus les mariages entre cousins pour ne pas vexer les Pakistanais. Donc, pour justifier cette position, comme un peu étonnante, le NHS avance, bien entendu, car nous sommes dans un monde scientifique, un argument scientifique. Le risque de maladie congénitale, disent-ils, chez les enfants de cousins, ne serait que de 4 à 6%, et que donc c'est un risque si faible qu'il ne faudrait plus s'embarrasser à expliquer aux populations et aux familles, aux couples qui ont ce projet, qu'ils prennent des risques. Alors ce chiffre, cela dit, appelle déjà à discussion, parce qu'en réalité, il représente déjà le double du risque observé en population générale. Et après tout, multiplier un risque par deux, c'est quand même pas si anodin que cela. Mais surtout, il s'agit d'une moyenne nationale. Or, le Royaume-Uni est un pays, vous en doutez, où depuis des siècles, la consanguinité est très faible. Et cette moyenne ne reflète donc pas la situation de groupe dans lesquels les mariages entre cousins se répètent sur plusieurs générations. Et là, c'est là que le problème devient extrêmement sérieux. C'est-à-dire que lorsque l'endogamie est structurelle et durable, le risque génétique augmente de manière cumulative. Les segments d'ADN identiques se multiplient, les mutations récessives s'expriment davantage et certaines pathologies deviennent beaucoup plus fréquentes. Le NHS le sait d'ailleurs très très bien, puisque dans des villes comme Glasgow ou Birmingham, eh bien une proportion importante des enfants traités pour des anomalies congénitales sont justement issus des communautés où ces pratiques endogamiques sont extrêmement répandues. Je crois que dans les deux villes que j'ai citées, Glasgow et Birmingham, 20% des enfants soignés pour des maladies congénitales, sont déjà d'origine pakistanaise. Donc il s'agit d'un véritable mensonge scientifique, puisqu'il consiste à appliquer à des populations endogamiques pakistanaises les taux qui sont ceux des populations britanniques, dont le patrimoine génétique a été en quelque sorte protégé des tares congénitales par 17 siècles de lutte contre l'endogamie. Alors je m'explique sur ce chiffre de 17 siècles, parce que pour comprendre ce qui est en jeu, il faut prendre un peu de recul historique. À la chute de l'Empire romain, l'Europe reste, elle aussi, comme la plupart des autres populations du monde, largement structurée par des logiques claniques. Les unions entre ascendants ou entre frères et sœurs sont certes interdites, l'inceste est interdit, mais le mariage entre cousins, lui, est autorisé, voire même parfois encouragé, car il renforce la cohésion du lignage, celle des clans, et la conservation du patrimoine. Et puis arrive un nouvel acteur, l'Église catholique. Et l'Église va progressivement transformer cet équilibre. Dès le Concile d'Elvire, ça ne date pas d'hier, c'était en 306, les mariages entre cousins germains sont proscrits. Au Concile d'Agde, pour dire que c'est quand même une politique extrêmement déterminée de la part de l'Église, au Concile d'Agde en 506, l'interdit est carrément étendu jusqu'au 7e degré. Alors là, ça devient extrêmement compliqué parce que ça consisterait presque, faute de savoir si par hasard on ne se marie pas avec un cousin aussi éloigné, que ça pourrait mener à l'extinction. Donc la règle étant tellement difficilement applicable, au Conseil de Latran IV, en 1215, on ramène l'interdiction à un niveau plus raisonnable jusqu'au 4e degré, justement celui des cousins germains. Alors ces décisions, évidemment, ne reposaient pas sur des considérations génétiques. C'était d'abord théologique et moral. Le mariage chrétien, selon la théologie chrétienne et l'anthropologie chrétienne, devait être fondé sur le libre consentement des époux et non sur des stratégies patrimoniales claniques. Et évidemment, il y avait aussi quelques arrière-plans plus politiques. C'est-à-dire que l'Église, de la sorte, pouvait détricoter, justement, l'emprise des clans sur la société et donc s'affirmer comme l'institution social, structurant davantage la société que ses rivales. Bon, cela dit, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss avait montré que l'interdit de l'inceste constitue justement le fondement même de la création des sociétés, puisqu'il oblige les groupes à nouer
des alliances extérieures. Et qu'en élargissant cet interdit, eh bien, le christianisme a donc accéléré ce processus de déclanisation de la société. Et ça n'a pas été sans véritable conséquence sur la façon dont la vie est organisée en Europe, puisque plus récemment, un historien des familles, je crois, Joseph Heinrich, a développé cette thèse. Alors, selon lui, l'interdiction durable au fil des siècles des mariages intrafamiliaux a modifié la structure psychologique des Européens et institutionnelle des sociétés européennes, parce qu'en affaiblissant les solidarités linéagères, les clans, eh bien, elle a favorisé l'émergence d'individus plus autonomes, moins dépendants du clan, davantage enclins à coopérer. Et cela a aussi contribué, du coup, à l'essor d'institutions bien connues et déjà anciennes en Europe, comme les guildes, les communes, et puis plus tard, l'émergence de l'État moderne. Autrement dit, la lutte contre l'endogamie n'a pas seulement eu des effets familiaux ou génétiques, elle a transformé la morphologie même des sociétés européennes. Mais revenons à la génétique, justement, et à la façon dont l'Église s'affaiblissant et la science arrivant en majesté dans les sociétés européennes a pris le relais à partir du XIXe siècle, en venant confirmer que ce que la tradition avait institué, eh bien, avait des effets bénéfiques. Alors, on est obligé d'évoquer la figure de Charles Darwin, qui s'interroge lui aussi sur les effets de la consanguinité. Il observe déjà que parmi les plantes et les animaux, lorsque la reproduction, on le voit dans les élevages notamment, entre proches se fait trop prégnante, eh bien, la vigueur biologique du cheptel diminue. Et lui-même, du reste, s'inquiétait beaucoup des effets de la consanguinité, parce qu'il était lui-même marié à sa cousine, et il s'inquiétait des conséquences possibles de cette consanguinité sur sa descendance, une crainte qu'il transmettra d'ailleurs à ses enfants, puisque l'un de ses fils travaillera lui-même sur ces questions de consanguinité. Et puis, comment ne pas évoquer aussi Gregor Mendel, qui est un moine, d'ailleurs, du reste, un moine autrichien, qui lui découvre au 19e le mécanisme selon lequel la consanguinité pose des problèmes. Donc en fait, il comprend que dans une union entre personnes non apparentées, eh bien, les mutations récessives restent généralement silencieuses. En revanche, lorsque deux individus apparentés se reproduisent, eh bien, la probabilité que ces mutations s'expriment augmente très fortement. Et puis la génétique moderne, on s'en doute, viendra confirmer et affiner ses analyses. Alors la science ne crée donc pas du tout l'interdit, elle en confirme la rationalité biologique. Et on peut se réjouir de ce rôle joué par l'Église dans la préservation et même l'amélioration du patrimoine génétique dont jouissent les populations européennes et donc de leur bonne santé, car en faisant la comparaison avec d'autres populations, car dans de nombreuses autres aires géographiques, malheureusement, les populations n'ont pas bénéficié de l'effet positif de ces interdits, et notamment, par exemple, dans de nombreux pays musulmans, l'endogamie demeure extrêmement élevée. Je vous donne quelques chiffres. Au Maghreb, les taux d'union entre apparentés peuvent atteindre de 15 à 30%. Au Moyen-Orient, ils avoisinent souvent 50%. Et dans certaines régions du Pakistan, donc, les Pakistanais, on le sait, sont très nombreux dans les îles britanniques, eh bien, cela dépasse même 60%. Si bien que ces niveaux très élevés se traduisent par une prévalence très, très accrue de maladies génétiques récessives. Et c'est un phénomène, évidemment, bien documenté par la littérature médicale, y compris par le service de santé britannique, comme on l'a vu. Alors, on peut en tirer deux conclusions. La première conclusion, c'est que la position des services de santé britanniques consistant à ne plus décourager les mariages entre cousins représente une aberration sanitaire et une effroyable régression civilisationnelle, puisque dans un contexte d'immigration massive, elle ne peut déboucher que sur une dégradation du patrimoine génétique des personnes et des populations présentes en Europe, et bien sûr donc à une explosion des maladies génétiques qui affectent la santé physique et mentale de ces populations. Et la seconde conclusion, c'est que les prétentions scientifiques des élites progressistes européennes, de gauche et d'extrême-centre, ne sont en réalité qu'une vaste farce. Une vaste farce, puisque loin d'être éclairée par l'observation empirique, vous savez, cet autre nom de la tradition, ou par les enseignements de la science, eh bien, leurs décisions ne sont plus soumises qu'à l'idéologie, je ne sais pas comment la qualifier, antiraciste, diversitaire, remplaciste, on l'appellera comme on voudra, mais toujours est-il que tout cela est le vecteur
d'un effroyable obscurantisme dont on voit le fruit, certes, dans les îles britanniques, mais on pourra peut-être en reparler également en France, avec des décisions à peu près du même ordre.
Merci, voilà Xavier Bonnemer. Merci pour cette chronique. On en discute avec Richard de Sèze. Ce dernier point est marquant, puisque c'est vrai que la science, pendant longtemps, était invoquée comme un argument d'autorité. Et aujourd'hui, ça donne une idée du poids qu'a pris l'idéologie dans toutes nos réflexions, et même dans la façon dont la société s'organise et va évoluer. Et c'est assez effrayant, en réalité.
Ben oui, c'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est que les sociétés européennes modernes se gargarisent des lumières, se gargarisent de la science, et pouvaient exciper de progrès réalisés justement dans les domaines de la santé et dans le domaine sanitaire pour soutenir toute leur idéologie, mais désormais, elles ne le peuvent plus. C'est-à-dire qu'elles larguent réellement les derniers acquis incontestables de cette période moderne sont en train d'être balancés par-dessus bord pour des raisons complètement sidérantes. Enfin voilà, je ne peux pas mieux résumer les choses, c'est-à-dire pour ne pas vexer les Pakistanais. Voilà, pour ne pas vexer les Pakistanais, on les laisse poursuivre dans des pratiques qui sont délétères au premier chef pour elles, mais aussi pour les sociétés, bien évidemment, qui les accueillent. Alors j'écoutais tout à l'heure la chronique de Louis Rigaudière, et il y avait cette personne, je ne sais plus de qui il s'agit, qui se félicitait que les populations européennes allaient être régénérées par le métissage avec les populations étrangères, parce que, disait-il, les populations européennes, fin de race, sous-entendu consanguine et endogame, allaient ainsi pouvoir être régénérées grâce à cette créolisation. Mais en réalité, c'est un raisonnement que totalement anti-scientifique, puisqu'on voit précisément que les populations qui prétendument devraient les régénérer sont celles qui sont les plus consanguines, les plus endogames, autrement dit, les plus fin de race. Mais là aussi, c'est de l'imaginaire collectif nous prête des tares que nous n'avons pas. Et ces tares-là constituent presque une exception à l'échelle des populations mondiales. C'est-à-dire que les règles imposées par le christianisme et par l'Église ont constitué au fil des siècles, ont permis aux populations européennes d'avoir au fil des siècles l'un des meilleurs patrimoines génétiques, en réalité, grâce à la non-endogamie.
Oui,
et
mais ensuite, tout ça ne compensera jamais.
Les plus endogames.
Tout ça ne compensera jamais toutes les tares morales, en fait, dont sont affublés les peuples européens. Parce que je pense que quand Mathieu Kassovitz, en l'occurrence, c'est lui qui avance la citation que vous nous avez rappelée et que donc, Louis Rigaudière partageait dans sa chronique, je pense qu'il a l'intention, en fait, quand il explique qu'on va être régénéré, je pense qu'il pense surtout sur le plan moral, sur le plan des valeurs.
Non, pas seulement ça. Quand dans la même phrase, on explique que les Européens sont des fins de race, on ne parle pas seulement d'une régénération morale. Mathieu Kassovitz n'en appelle pas à une réforme intellectuelle et morale, comme on a pu le faire dans notre histoire. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est une accusation de dégénérescence génétique. Et voilà, je pense que l'appel au métissage, d'ailleurs, on ne dit pas « Oh, si tu es différent de moi, mon frère, si tes valeurs diffèrent, tu m'enrichis. » Ça, c'est le discours... c'est un discours complètement dépassé. Aujourd'hui, on explique que nous devons être régénérés génétiquement par les populations qui sont appelées à nous remplacer et que nous en retirerions davantage de vigueur, etc. Dans l'absolu, dans les limbes, ça pourrait être vrai, sauf que ce n'est pas vrai précisément parce que les populations auxquelles on fait appel pour cette régénération sont des populations extrêmement frappées par énormément de tares congénitales dues à un modèle de société parfaitement endogamique appliqué depuis des siècles et auquel ils n'ont toujours pas renoncé. C'est-à-dire que lorsqu'on constate que beaucoup, notamment de jeunes maghrébins ou maghrébines, sont sommés par leur famille d'épouser des cousines du bled parce qu'elles seraient moralement supérieures et pas contaminées par toutes les tares morales de l'Occident, eh bien, on voit là encore un comportement de type endogamique, avec toutes les conséquences sanitaires que cela peut avoir s'il s'agit d'authentiques cousines.
C'est intéressant, voilà. Dans une société qui, par ailleurs, est ultra-hygiéniste, tente de tout contrôler, essaie d'atteindre une espèce de pureté, y compris sur le plan matrimonial, de pouvoir tolérer ça à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de restrictions, par exemple, pour les femmes enceintes, pour prévenir tout un tas de risques. On les bourre de compléments, etc. Et à côté de ça, on va permettre la consanguinité.
Absolument. C'est dire la puissance de cette idéologie diversitaire ou soi-disant antiraciste et la façon dont elle s'impose à l'ensemble de la société jusqu'à l'absurde. Enfin, c'est une bonne façon de raisonner sur le véritable impensé et l'idéologie du temps. Alors, je pense qu'il y en a deux. Il y a certes le management, qui est une grande idéologie contemporaine, mais la seconde, c'est quand même réellement la pensée antiraciste, diversitaire et autres, mais qui s'extrait par son impératif catégorique est tel que tout le reste doit disparaître.
Je voudrais
s'effacer devant elle.
Je voudrais ajouter juste deux mots, Churchill et Servat. Et maintenant, je les explique. Olivier Servat, donc député Lyotte de la Guadeloupe, à l'antenne de Radio Courtoisie, s'est félicité de la manière dont la drépanocytose était maintenant en France une maladie obligatoirement dépistée pour tout le monde. Parce que le métissage avait apporté justement ce risque de la drépanocytose pour tous ceux qui ne sont pas d'origine africaine. Et donc j'ai été extrêmement surpris qu'un député guadeloupéen nous explique que l'un des bienfaits du métissage était justement le fait qu'une maladie génétique était désormais partagée par beaucoup plus de gens qu'avant. Ça m'a, j'avoue que j'ai été très peu sensible à l'argument et que j'avais tendance à considérer qu'il était plutôt dommage que beaucoup plus de gens soient exposés à un risque. Mais bon, visiblement, je n'étais pas aligné sur ce député Lyotte.
Alors, si vous voulez bien, on va faire une incise sur cette question-là, parce qu'elle est extrêmement intéressante, et on reviendra à Churchill après. La drépanocytose, ce qui est fascinant, c'était ça que je pensais quand je disais que nous n'étions pas en France exempts du même genre de dérive que celle des services de santé britanniques. Jusqu'à une date récente, la drépanocytose était dépistée dans les populations européennes présentes en Europe, dites à risque, c'est-à-dire essentiellement des populations des dom-toms et des populations d'origine subsaharienne. Il se trouve que cette maladie génétique est extrêmement présente parmi les populations subsahariennes pour une raison purement darwinienne, c'est-à-dire que cette maladie génétique a un effet positif en Afrique, c'est qu'elle expose moins les populations en question au paludisme. Tant et si bien que les siècles passant, eh bien, les personnes qui étaient porteuses de cette maladie génétique, résistant mieux au paludisme, sont devenues de plus en plus
nombreuses
parmi ces populations. Et donc, en France, de façon extrêmement rationnelle, on dépistait cette maladie, notamment chez les nouveau-nés, lorsque ces nouveau-nés étaient issus de ces populations très exposées à la drépanocytose, puisque la drépanocytose, en réalité, n'existait pas parmi les populations européennes de souche. Et il se trouve que, précisément, je crois que c'était notamment F de souche, pour juger de l'évolution... c'était une forme de statistique ethnique, puisque au fur et à mesure qu'on avait la progression de ce test, eh bien, c'était un signe de la présence de ces populations étrangères en France. Et on a décidé d'élargir le test à l'ensemble des nouveau-nés de façon à simplement masquer cette indication d'origine des nouveau-nés. Là aussi, c'est quelque chose de complètement sidérant, car c'est un test qui coûte de l'argent. On déploie des moyens, donc, simplement pour masquer une statistique ethnique induite, même pas volontaire. Cela dit, là aussi, l'ampleur quand même de la puissance de l'idéologie diversitaire et antiraciste, puisqu'on se met à faire des tests de dépistage de maladies sur des populations qui ne peuvent pas avoir cette maladie.
Et malgré tout, avec effectivement de plus en plus de gens qui y sont exposés à cause des bienfaits des œuvres appelées par Mathieu Kassovitz. Et par ailleurs, Churchill, vous me pardonnerez, mais je suis évidemment fasciné par la manière dont il y a eu un eugénisme d'État en Europe, d'ailleurs dans les pays protestants plus que dans les pays catholiques, et dans les milieux progressistes plus que dans les milieux réactionnaires, et où il y a 100 ans, ou 150 ans, et notamment en Angleterre, entre 1911 et 1913, il y avait des lois eugéniques où il s'agissait d'améliorer la race. Et par exemple, donc Churchill était un fervent propagandiste de l'eugénisme d'État, et il voulait faire en sorte d'améliorer la race anglaise. Je cite ses propres propos, et de dire que un siècle plus tard, on en arrive à, au contraire, l'idée que pour ne pas choquer les Pakistanais, il est au contraire nécessaire d'affaiblir en fait la santé physique de la population. Je trouve ce renversement, on est passé d'un racisme d'État bien typique des Anglais et de leur prétendue supériorité à un anti-racisme d'État qui considère qu'il vaut mieux avoir une population en mauvaise santé qu'une population qui ne serait pas sanctifiée par l'idéologie diversitaire.
Oui, c'est ça. J'ai rien à ajouter, en fait. C'est un constat sidérant qui nous laisse en réalité sans voix.
Je voudrais vous poser une question, Xavier Vandelier. Excusez-moi. Est-ce qu'on nous dit, voilà, c'est un risque qui touche 4-6% de la population. Effectivement, on a l'impression que c'est pas gros. Mais moi, j'ai l'impression que les politiques publiques, quand on vous dit il y a 2% de la population qui sont exposés à tel risque cardiovasculaire, il y a 1,8% de la population, et là, les gens s'émeuvent. Et on nous dit, mais vous vous rendez pas compte, 2% de risque, c'est énorme. Et donc en fait, les politiques publiques sanitaires, en fait, on traque le risque, et étant donné qu'elles sont plutôt bonnes, qu'elles sont plutôt satisfaisantes, qu'elles se bâtissent effectivement sur une civilisation où le fait que les gens soient en bonne santé paraît appartenir au bien commun, et on est allé traquer vraiment les risques de plus en plus loin. Et là, brusquement, régression aussi du risque, c'est-à-dire si le risque moral paraît supérieur au risque physique. Et donc, on est prêt à admettre un niveau de risque pour ces pathologies-là bien supérieur à tous les niveaux de risque qu'on est capable d'admettre pour les autres pathologies, et qui au contraire là déclenchent des obligations vaccinales incroyables. Il s'agirait de vacciner les gamins dès 3 mois contre la possibilité qu'il attrape une maladie, alors que le risque que cette maladie soit effectivement attrapée et finisse par devenir problématique est considérablement inférieur à ces 4-6%.
Absolument. En fait, c'est une décision tellement absurde qu'en fait, elle pourrait consister simplement... Enfin, s'il n'y avait pas ce critère... Là, il y a un critère racial qui empêche de prendre la mesure, mais en réalité, d'un point de vue sanitaire, ce serait aussi absurde que si on disait tout d'un coup, bah, il faut arrêter de dire que le tabac, c'est mauvais pour la santé, parce que, bon... ça pourrait vexer les fumeurs. Voilà, c'est aussi débile que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment tout une déstructuration... complète des politiques de prévention, parce qu'un critère, en l'occurrence celui de l'origine ethnique, doit primer absolument sur tout le reste. Je voudrais revenir sur les années 30, en l'occurrence, qui étaient donc effectivement des années très marquées dans l'ensemble de l'Occident par une pensée eugéniste. Ce qui pouvait être critiquable dans la pensée eugéniste, en l'occurrence à l'époque, c'était pas tant ses présupposés ou ses objectifs que le caractère obligatoire et contraignant. C'est-à-dire que c'était un eugénisme sous la contrainte. On voulait contraindre les populations. Ici, il faut bien savoir que le mariage entre cousins, en l'occurrence, même en France ou en Grande-Bretagne, n'est pas interdit. Il est permis, mais il fait l'objet de politiques de prévention. C'est-à-dire qu'on explique aux gens, attention, vous vous exposez à tel ou tel type de conséquences. On leur explique que justement, ben voilà, il pourrait y avoir un risque plus élevé de maladies génétiques. Et donc, on les décourage d'aller dans ce sens. On les décourage comme l'ensemble de notre culture du reste. Hein. C'est-à-dire que c'est une norme sociale, mais pas une loi contraignante. Mais on en est au point où, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, mon Dieu, il faut arrêter d'interdire aux Pakistanais de se marier entre cousins. Il ne faut même plus les avertir, les mettre en garde contre les conséquences de ces mariages-là. Et le NHS va même plus loin, puisqu'il dit que par ailleurs, il y a aussi des avantages au mariage entre cousins. Et alors là, vraiment, les bras nous en tombent. Et ces avantages sont lesquels? Eh bien, ce sont ceux de Société Clanique. Ça renforcerait la solidarité dans le groupe, l'entraide au sein de la famille, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que le NHS nous explique, c'est que c'est absolument formidable. Les avantages comparatifs, ce sont ceux des clans et des mafias, en réalité. C'est-à-dire que les avantages comparatifs que prône le NHS au mariage endogamique au sein de la famille, hein, parce qu'il s'agit en fait c'est de se reproduire, d'avoir des relations sexuelles au sein de sa propre famille, c'est quand même un peu spécial, eh bien ce sont ceux du clan et de la mafia. En fait, ce sont ceux des grooming gangs britanniques, vous savez, ces gangs de Pakistanais qui avaient asservi de jeunes britanniques de milieux populaires pour en faire des prostituées. Je ne sais pas si vous avez vu le visage de ces proxénètes. À l'évidence, ils ont un patrimoine génétique extrêmement déficient. C'est-à-dire que ça se voit à l'œil nu que l'endogamie devait être pratiquée dans leur lignée depuis des siècles et des siècles. Voilà, c'est sidérant. C'est-à-dire que même d'un point de vue antiraciste, assimilationniste, eh bien, favoriser le mariage au sein de la famille, c'est renoncer à toute idée d'assimilation, d'intégration, puisque précisément l'endogamie et cette logique-là est celle de la loi du clan qui prime sur toute autre loi, et notamment sur les lois de la société. Donc, au-delà même des questions sanitaires, c'est faire la promotion d'une régression civilisationnelle absolument, absolument sidérante.
Puis expliquer ça et en même temps expliquer aux Européens qu'ils doivent favoriser le métissage parce que eux par contre doivent vraiment prendre le plus de distance possible avec tout ce qui pourrait leur ressembler et vraiment s'ouvrir au monde, à nouveau il y a quand même une forme d'hypocrisie assez formidable. Merci beaucoup Xavier Van Lierde pour cette analyse et on vous retrouve la semaine prochaine.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec la chronique d'Éric Doutrebente. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes le fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante gérant des clients privés. Aujourd'hui, on parle des chiffres concernant le PER, plan d'épargne retraite, qui sont impressionnants. Que se passe-t-il, Éric Doutrebente?
Alors, le plan d'épargne retraite, il y a une dynamique très, très importante parce qu'évidemment, tout le monde s'inquiète de sa retraite. Aujourd'hui, on a eu à peu près 12,7 millions de personnes sont titulaires d'un plan d'épargne retraite. Donc, c'est des chiffres importants. C'est à peu près 141 milliards d'encours gérés. Et la hausse en 2025 est de 20%. Alors, le PER, il faut peut-être le rappeler, c'est un produit d'épargne qui a été boosté par la loi Pacte de 2019 et il y a quelques éléments que je voudrais indiquer. D'abord, ça permet d'avoir une déduction des primes versées sur le revenu global dans la limite de certains plafonds. Et là, pour regarder les plafonds, vous regardez votre avis d'imposition que vous avez reçu au mois d'août ou au mois de septembre et vous verrez que ces montants sont indiqués. Il n'y a pas de déduction possible après 70 ans. Ça, c'est une nouveauté de la loi de finances de 2026. Il y a une possibilité d'utiliser les plafonds qui n'ont pas été utilisés parce que vous n'étiez pas au courant ou parce que vous n'avez pas pu gérer vos actifs. Et donc là, avant, c'était 3 dernières années. Là, on peut récupérer les 5 dernières années pour pouvoir investir de manière plus importante dans le PER. Les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, donc il ne faut pas l'oublier, bon, sauf accident de vie et acquisition de résidence principale, mais généralement, on ne fait pas ça au moment de sa retraite. Et puis, tous les modes de gestion sont possibles. Donc, on peut être aussi bien en euros qu'en titres, qu'en fonds, qu'en maintenant non cotés. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, les retraits au moment de la retraite sont taxés. Il ne faut pas l'oublier. Et évidemment, et ça dépend de votre... Il sera taxé au barème de l'impôt du PFU qui, aujourd'hui, est passé à 31,4. On verra ce qui se passe dans le futur. Donc, faire attention aussi à cet élément-là. Et évidemment, le plus important, c'est que le PER est intéressant essentiellement pour les personnes qui ont un TMI, donc c'est taux marginal d'imposition, qui est supérieur à 41 ou 45. Alors on peut évidemment aussi aller regarder pour les gens qui sont au-dessus de 30, mais vraiment ne vous faites pas avoir par des vendeurs de produits, voire de savonnettes, en disant vous avez besoin d'un PER alors que vous avez un taux d'imposition qui est inexistant ou même inférieur à 30%. Donc c'est important d'avoir cette ligne de 30%. Et il est possible donc de conserver son père jusqu'à son décès. Et donc là, c'est un avantage. Quand vous êtes marié, eh bien, vous pouvez transférer l'ensemble de votre PER à votre époux ou votre épouse, eh bien, sans avoir de fiscalité. Donc, c'est un produit très intéressant. On voit très bien qu'il est très en vogue. Alors, il y a des raisons pour cela. Il y a l'inquiétude. Il y a aussi le fait que la fiscalité ne fait qu'augmenter. Donc, les gens, un jeune ménage, rapidement, il se met à faire cela. Et on voit que les versements mensuels, je parle des versements mensuels, qui étaient de 202 euros en 2023, c'est une moyenne nationale, il est passé à 107 euros en versement mensuel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et ça veut dire qu'évidemment, plus le versement baisse, ça veut dire qu'on a plus des patrimoines qui sont moins importants et qui utilisent ce produit pour essayer de se tranquilliser. Donc, il y a une démocratisation importante du PER. Et voilà le petit élément sur le PER avec ces chiffres très impressionnants qui ont été annoncés.
Alors, si nos auditeurs s'y intéressent, que doivent-ils faire pour bien choisir dans la multitude de produits financiers qui s'offrent à eux, Eric Doutremonte ?
Alors d'abord, il faut toujours regarder sa situation personnelle. Vous savez que la star des Français, c'est l'assurance vie, c'est un produit très français. La collecte l'année dernière a été de plus de 50 milliards. On rejoint les plus hauts niveaux de 2006, 2007 et 2010. Et 50 milliards, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que les gens sont un peu angoissés, c'est anxiogène tout cela. Et donc, collecte importante de l'assurance vie, cela reste un élément non négligeable du patrimoine, mais il faut le faire après avoir fait une simulation de droit de succession, regarder ses disponibilités. Mais l'assurance vie est quand même un produit important, sachant qu'on peut avoir, comme dans l'épargne retraite, les différents placements qui sont des actions, des obligations, des sicav monétaires, du fonds en euros, du non coté. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est pour ça qu'il faut être conseillé sur ces produits, sachant que l'assurance vie, donc c'est 50 milliards. Vous avez compris que le PER, la collecte, là, cette année, c'est 22 milliards, ce sera peut-être un peu plus. Les livrets soumis à l'impôt, donc c'est tout ce qui est livret, donc les livrets qui sont soumis, c'est 11 milliards. Et il y a évidemment une baisse concernant les comptes à terme et le PEL, puisqu'il y a des sorties de plus de 24 milliards cette année. Donc, ce qu'il faut, c'est être bien aidé et surtout ne pas s'occuper de la défiscalisation. Le plus important, c'est son patrimoine et la répartition équilibrée avec ses flux financiers pour ne pas être coincé non plus dans des produits.
Merci Eric Doutremonte pour cette chronique et ses conseils. Comme d'habitude, chers auditeurs, si vous avez besoin d'approfondir ou de conseils plus précis, eh bien, n'hésitez pas à contacter Eric Doutremonte, à vous renseigner donc, sur Tiepolo ou à contacter la radio. On vous mettra en relation. Merci et puis je vous dis à la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Liselotte.
Bonjour Gilles. Alors aujourd'hui, l'Église catholique célèbre le mercredi des cendres, premier jour du carême.
Oui, alors une bonne nouvelle pour le Figaro qui titre « Le retour en force inattendu du carême ». Et Jean-Marie Guénois écrit « Qui pouvait imaginer que des jeunes se précipiteraient dans des églises le mercredi des cendres pour recevoir sur le front une croix noire, viatique symbolique des 40 jours d'ascèse du carême ?» Après l'engouement consacré en 2025, la question se pose à nouveau cette année car le phénomène devrait se confirmer. Et l'on apprend ainsi que le nombre des baptisés n'a cessé de progresser. Ainsi, l'épiscopat s'apprête à publier des chiffres nationaux qui devraient encore être à la hausse. Pour le diocèse de Paris, la progression sera de 17%, avec 786 baptisés adultes. Ils étaient 522 en 2024, soit une augmentation de plus de 50% en seulement 2 ans. La tendance est la même en Île-de-France et dans cet engouement pour vivre le carême, l'écrivain Franck Laurent confie « Il y a un désir de sens spirituel. Il se peut que l'indigestion matérialiste ouvre ces jeunes à de nouveaux appétits plus nourrissants spirituellement. » Ce professeur en classe préparatoire vient justement de publier un ouvrage de 40 méditations aussi originales que spirituelles, axé vers le grand public. Un simple verre d'eau fraîche sous-titré « Il y a de la joie dans l'homme » paru chez Fayard. Lui insiste sur la dimension physique de ce regain de foi. Le héros du carême, c'est le corps. Pas le corps cabotin, le corps spiritualisé. Tous ces jeunes ont vécu dans l'injonction du corps cosmique ou du corps athlétique. Ils sont fatigués. Et voici qu'on leur dit « Ton corps est fait pour autre chose. Il est lieu de pardon, de paix et de fraternité. » À lire dans Le Figaro.
Ah oui, vous jeûnez aujourd'hui, Gilles.
Mais oui, c'est mercredi des cendres.
On a appris la nomination d'Anne-Claire Legendre, sinon à la tête de l'Institut du Monde Arabe, succédant ainsi à Jack Lang. Mais qui est-elle ?
Oui, alors ce n'est pas un hasard, Emmanuel Macron a préféré nommer une fidèle bien rodée à l'Élysée, puisqu'elle fut conseillère depuis 2023 pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, avant d'être porte-parole au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle a été ambassadrice au Koweït et consul général à New York de 2016 à 2020, et cette diplomate de carrière arabophone, au moins elle parle arabe, c'est pas comme Jack Lang, devient à 46 ans, écrit Le Parisien, la première femme à diriger l'IMA après un vote à l'unanimité des 14 membres du conseil d'administration, dont 7 représentants des pays arabes. Alors c'est l'antithèse de Jack Lang, confie un ambassadeur. Au Quai d'Orsay, certains lui reprochent sa froideur, qui contraste avec le ton de ses conférences de presse hebdomadaires où elle se montre particulièrement à l'aise. Et Jean-Michel Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré que l'État souhaite que la nouvelle présidente étudie les modalités d'action permettant de faire rayonner l'IMA au-delà de ses murs et de raffirmer son rôle au service de notre diplomatie culturelle et d'un dialogue renouvelé avec les sociétés arabes contemporaines. Alors on a appris surtout qu'il devrait y avoir une modification des statuts, ça c'est intéressant, visant à fixer à 64 ans l'âge limite du président, il était temps, lors de sa désignation, et à limiter le nombre de mandats successifs, à créer un comité chargé de la déontologie et des rémunérations, ainsi qu'à l'instauration d'une déclaration d'intérêts et de règles strictes en matière d'acceptation de cadeaux et d'avantages. Bref, il s'agit en quelque sorte de remettre de l'ordre dans cet institut. Alors j'en profite pour dire une petite chose, parce que Jack Lang a remercié François Mitterrand de l'avoir nommé à l'époque à la tête de cet institut. Mais ce n'est pas du tout François Mitterrand qui était à l'initiative de cet institut, c'est Valéry Giscard d'Estaing au départ. Après, il a été construit, inauguré sous Mitterrand. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Merci Gilles. Coup de chapeau aux quatre garçons aussi qui ont gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques dans une discipline peu connue, le biathlon.
Alors, je ne parle pas souvent de sport, mais là, franchement, je vous dis, oui, bienvenue dans la patrouille de France, comme le titre parisien est aujourd'hui en France. Fierté nationale avec ces quatre garçons dans le vent, magnifique. Comme quoi, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles dans l'actualité. Et l'on se félicite d'avoir obtenu la première médaille d'or de l'histoire du relais masculin français devant la Norvège. On peut citer, alors moi je vais les citer, hein, Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault, dont leur entraîneur Simon Fourcade dresse leur portrait pour Le Parisien et aujourd'hui en France. Je vous encourage à regarder vraiment sur le site de France Info, sur cette finale triomphante, avec un suspense incroyable, puisque la France était 15e et qu'elle est remontée avec des tirs splendides, notamment les derniers exécutés par Éric Perrault. Les images sont saisissantes et comme le dit son entraîneur, il tire vite quand il faut tirer vite, et il pose les choses quand il le faut.
C'est ce qu'on disait ce matin, en plus c'est charmant parce qu'ils ont vraiment des noms très français, on se croirait dans un Louis de Funès, vous voyez, Fabien Claude, Émilien Jacquelin.
Et ils ont une discipline, une maîtrise, et je vous assure que j'en avais presque les larmes aux yeux à la fin quand il pratique le dernier tir et il passe la ligne d'arrivée, c'est magnifique.
Je regarderai peut-être...
Oui, je vous encourage.
En rediffusion, on verra. Toujours à propos de tir, la Fédération française a été ciblée par une cyberattaque en octobre dernier et Valeurs Actuelles revient sur cette affaire.
Oui, Fédération française de tir. Alors, c'est incroyable. J'ai lu il faut absolument que vous lisiez ça, c'est sur 4 pages. Le journaliste Amaury Bucaud affirme que les données donc de plus d'un million d'adhérents ont été piratées. Alors depuis, les cambriolages chez les licenciés se multiplient et il en donne la preuve en racontant le récit glaçant d'un octogénaire qui a reçu à son domicile du 15e arrondissement de Paris un faux policier dont on apprendra qu'il est originaire d'Abidjan, en lien avec un autre complice qui lui a demandé de filmer l'ouverture de son coffre chez lui où sont planquées 6 armes de poing, en toute légalité, dont un mythique revolver Manurin MR73 ainsi qu'un fusil. La méfiance germe dans son esprit quand le commanditaire de l'opération demande à son technicien d'ouvrir la boîte à bijoux à vendre ayant appartenu à la mère d'Alain au cas où les munitions y auraient été à cacher. Alors l'octogénaire dit « Cela m'a paru totalement saugrenu. Sans doute voulait-il voir si les bijoux avaient de la valeur. » Il s'éloigne discrètement, appelle son club de tir et à l'autre bout du fil, on lui confirme que la police ne procède à aucun contrôle de ce type. Et le 17 est composé pour lui et Alain comprend qu'il a ouvert sa porte et son arsenal à des délinquants. Puis au bout d'un moment, l'intrus lui demande « Mais vous avez appelé quelqu'un ?» Alors Alain rétorque sans détour « Oui, mon club, je voudrais voir votre carte de police. » Et au téléphone, c'est la panique, le faux policier ordonne à son complice de partir. lequel tente de sauver la face. « Je vais chercher ma carte !» Évidemment, le jeune homme sort de l'appartement, traverse la cour, passe devant la loge du gardien où une caméra est fixée au plafond, puis disparaît. Et quelques minutes plus tard, une dizaine de policiers débarquent chez Alain. Le suspect sera finalement interpellé quelques heures plus tard. À lire la suite dans Valeurs Actuelles, ça aurait pu être un carnage, hein, parce que le type, il savait tirer.
Mais c'est quand même dingue.
Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Comme quoi, vous voyez, un club de tir, faut se méfier. Hein.
Et attention, parce que nous avons des caméras braquées sur vous aussi.
Ça peut être une belle pratique. Vous voyez, vous nous parliez de biathlon. Il me semble que justement, il y a du tir.
Alors moi, j'ai fait du tir. J'ai fait un tout petit peu de tir aux États-Unis lors d'un reportage dans le Montana. Ah ouais.
Ah, voilà, quand j'étais en échange là-bas.
Voilà, revolver et fusil. Et puis avec mon grand-père aussi, mais ça c'est une autre histoire, je vous raconterai ça.
Oui. Mais voilà, mais ça peut être une belle pratique, c'est juste que comme on est dans un monde super violent, forcément.
Enfin, moi je suis assez myope, alors c'est pas terrible quand même.
Bon, si vous tirez très vite, dans tous les sens, vous êtes sûr de choper le pigeon, cible. Hein.
Il sera imbouffable, mais bon, voilà, c'est pas grave.
Merci Gilles pour cette revue de presse. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi cette matinale sur YouTube et sur X. Le direct prend fin, mais vous pouvez continuer à nous écoutez sur la bande FM ou sur rc.fr pour nous soutenir, parce que c'est important, chers auditeurs. Franck va vous expliquer dans une seconde comment faire, mais voilà, je vous le rappelle, on essaie d'être présent sur le terrain, on se développe, vous le voyez, les studios évoluent, on achète du matériel, tout ça c'est grâce à 2% des auditeurs qui donnent. Ça permet à la radio d'investir pour pouvoir durer sur le long terme, mais si vous voulez que ça marche, eh bien voilà, il faut s'engager à nos côtés.
La façon la plus simple de nous aider, c'est d'aller sur soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne. Vous pouvez faire des dons minimes, hein, même en fonction de vos moyens. Au plus important, si vous le pouvez, c'est déductible de vos impôts sur le revenu. Soutenir.rc.fr et merci d'avance de nous aider à défendre vos idées.
Ouais, merci d'avance, chers auditeurs, et merci à ceux qui donnent déjà. Et tout de suite, on parle du meurtre de Quentin. Comment lui rendre hommage ? C'est avec Aliette Espieux.
Ligne droite. Debout les Français.
Et on continue à parler de Quentin avec Aliette Espieux. Bonjour et merci d'être avec nous, Aliette.
Bonjour les autres.
Alors, vous êtes avec nous ce matin puisque vous faites partie de l'équipe des organisateurs qui se sont donc fixés pour mission d'organiser un hommage à Quentin ce samedi à Lyon. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer pourquoi est-ce que donc le meurtre de Quentin vous a, vous, touché particulièrement et comment vous en arrivez donc à vous engager pour organiser cet hommage ?
Merci en tout cas pour cette intervention et pour nous faire venir sur votre matinale ce matin. Alors, le meurtre de Quentin m'a touché moi et je pense qu'il a touché également la France entière, en tout cas les personnes qui ont encore un minimum d'humanité. Quand on a tous vu les images...
Alors, on n'a plus de son.
Son micro a été déconnecté, je ne sais pas si elle peut nous écouter, mais il y a un problème avec sa liaison. Voilà, je vais essayer de la joindre par téléphone peut-être, chère Liselotte.
Bah volontiers, Franck. Voilà. Merci.
L'équipe est un petit peu au réduit aujourd'hui, donc effectivement c'est compliqué.
Bah oui, mais c'est l'occasion de vous rappeler, chers auditeurs, que si on tourne en équipe réduite, c'est parce qu'on essaie aussi de couvrir le terrain pour vous, de ne pas rester seulement à Paris, où ça nous fait plaisir, on quitte la pluie. Mais bon, c'est surtout pour vous offrir une information un peu plus diverse. On critique souvent les autres médias qui seraient un peu trop parisiano-centrés, donc nous évitons de tomber dans ce travers également. Et j'en profite pour vous annoncer que donc, le sujet de ce matin... C'est cette manifestation qui aura lieu à Lyon samedi en hommage à Quentin. Attention, c'est bien un hommage. Tout s'organise, on va pouvoir en rediscuter dans quelques instants avec Aliette Espieux, j'espère. Et donc Maïlys Clauzel et moi-même serons a priori sur place. Voilà, on espère qu'on aura des institutionnels également à nos côtés, comme on en a eu beaucoup dimanche. Il y avait déjà un premier hommage qui était organisé à Paris. Un peu plus de 500 personnes, a priori, selon l'organisation. Là encore, nous étions sur place, notamment grâce à ceux qui font des dons à la radio et qui nous permettent de nous équiper en matériel et de nous rendre disponibles. Et voilà, et donc présence remarquée d'Éric Zemmour, Marion Maréchal... beaucoup d'élus du Rassemblement National aussi, Pierre-Romain Thionnet qui nous a donné un entretien, Et donc voilà, on vous invite à suivre tout ce travail de terrain qu'on fournit. On a pu produire un reportage qui est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Il a été publié hier par Louis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le regarder. C'est quelques minutes seulement, mais ça vous donnera une bonne idée de l'ambiance. Et j'espère qu'on pourra réitérer ce samedi à Lyon avec Maëlys. Voilà. Franck, est-ce qu'on a des nouvelles d'Aliette ?
Eh bien, pas pour le moment, du coup. Son compte a été déconnecté. J'imagine qu'elle va revenir et le téléphone est injoignable. Je ne peux rien faire de plus.
Bon, mais je peux continuer à vous parler.
Oui, bah écoutez, on peut vous parler. On peut peut-être préciser que le site internet de Radio Courtoisie a été refait. En tout cas, bien aménagé. Pour les dons. Et aussi pour l'accessibilité. Et bientôt, vous pourrez bénéficier des émissions en podcast sur vos plateformes préférées, comme Spotify, Deezer et ainsi de suite, pour faciliter la propagation de nos émissions. Voilà. Et la revoici, Aliette. Nous allons pouvoir lui parler dans quelques secondes, si la technique veut bien.
Merveilleux.
Est-ce que vous nous entendez ?
Est-ce que vous nous entendez, Aliette Espieux ?
Non, elle n'a pas de micro activé, donc c'est compliqué hein, ce matin. Vous nous... Non, elle ne nous entend pas.
Déjà, on la voit.
Oui, on la voit, c'est bien, mais pour les auditeurs qui sont sur la FM, c'est un petit peu frustrant.
Bah oui, c'est frustrant, ils doivent se contenter de ma voix, de celle de Richard de Cesse qui m'a rejoint.
Eh bien, voilà.
Tous les cas, je pense qu'on peut rappeler aux auditeurs que c'est important de se mobiliser ce samedi parce qu'encore une fois, on est sur une manifestation d'hommage, donc c'est pas un acte militant très, très particulier. Hein. On sort de l'action ou autre. C'est vraiment une façon presque déjà de se recueillir pour Quentin, mais aussi de montrer votre indignation et de montrer que la société française, en général, n'est pas prête à laisser passer ce genre de crime.
Alors, je tiens d'ailleurs à souligner que d'autres rassemblements, en la mémoire de Quentin, d'autres rassemblements d'hommages ont été, dans certaines villes, interdits par la préfecture, notamment à Toulouse, qui a jugé que le fait de rendre hommage à quelqu'un qui a été assassiné était visiblement un trouble à l'ordre public, ce qui est un peu surprenant. On pourrait penser que la police et les préfets sont censés assurer l'ordre public quand on essaie de rendre hommage à quelqu'un qui est mort, plutôt que d'interdire ses hommages.
Je crois que Aliette Espieux est à nouveau avec nous. Franck, est-ce que vous confirmez ?
Je confirme et elle devrait nous le confirmer aussi.
Aliette, oui, c'est tout bon. Génial, on est ravis de vous retrouver. Bon, on a rapidement expliqué donc qu'encore une fois, cet hommage aurait lieu samedi à Lyon. On a été coupé au moment où vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous aviez choisi d'organiser cet hommage. Donc je vous laisse réexpliquer ça aux auditeurs.
Oui, voilà. En fait, nous avons souhaité d'organiser cet hommage parce que toute la France a été profondément émue par ce qui s'est passé, choquée et scandalisée. Et vous vous doutez bien qu'à Lyon, il y avait quand même la volonté d'organiser quelque chose qui respecte la mémoire de Quentin, qui ne tombe pas dans un espèce d'excès de violence. Parce que forcément, cette colère, en tout cas, pourrait être totalement légitime. Et c'est pour ça que je me suis permise d'organiser cette manifestation sans pour autant faire partie des proches et des intimes de Quentin. L'objectif, c'était vraiment d'organiser un hommage qui permette pourrait lui correspondre, qui soit à la fois un endroit où les personnes puissent témoigner de leur soutien vis-à-vis de la famille, et également, pourquoi pas, exprimer un peu leur colère sans pour autant que ça tombe dans un excès de vengeance. Ce sera un hommage très solennel. Il y aura un dépôt de gerbes sur les lieux du crime, etc. Donc on part vraiment sur quelque chose d'extrêmement solennel et politique en quelque sorte.
Bon, c'est pour ça qu'on incite les auditeurs qui en auraient la possibilité à se rendre sur place. Est-ce que pour le moment, l'organisation se passe bien ? Parce qu'on sait que pour d'autres hommages, par exemple, ça a été compliqué dans certaines villes. Richard de Cesse le rappelait à l'instant. Les hommages ont été interdits. Ça se dessine mieux de votre côté ?
Alors moi, il faut savoir que je suis en lien avec la préfecture et la police. Depuis le début de cette organisation. Donc évidemment, ils nous sollicitent beaucoup parce qu'ils craignent les menaces de l'extrême gauche. Il faut bien en prendre compte. L'extrême gauche n'a pas peur. Hein. Je pense que tout le monde a également vu les images du journaliste Vincent Lapierre se faisant attaquer le lendemain de la mort de Quentin. Il faut quand même avoir peu d'humanité et peu d'honneur pour être capable d'attaquer un journaliste et ses amis et les amis de Quentin pratiquement le lendemain des faits sur le lieu du crime. Donc voilà, étant donné que nous rendons sur ces lieux-là, il y a une très grosse force policière qui est mobilisée, la préfecture et voilà, on travaille beaucoup avec la préfecture. Je doute que ce soit interdit, étant donné qu'il y a vraiment un travail qui est fait pour que tout se passe bien dans les deux sens.
Oui, et encore une fois, ça prouve qu'on n'est pas sur un hommage sauvage. C'est vraiment quelque chose de pensé, d'organisé, y compris avec les forces de l'ordre. Donc si certains auditeurs étaient inquiets de la façon dont les choses pouvaient tourner, bah déjà, je pense que c'est important de montrer qu'on n'a pas peur et on ne cédera pas face à l'extrême gauche. Mais par ailleurs, encore une fois, voilà, on est quand même sur un événement particulièrement encadré. Aliette Espieux, combien est-ce que de vous attendez, vous espérez de participants actuellement? Est-ce que vous avez l'impression que l'appel à rendre hommage se répand comme vous le voulez?
Alors, je vous cache pas que c'est très très flou. On a pas mal d'estimations, c'est-à-dire de personnes qui disent bon bah on va peut-être venir. C'est pas mal de peut-être en fait. Pour l'instant, on n'a pas de certitude. Je vous avoue que la semaine est très importante pour cela. Il y a des personnes qui nous ont assuré de leur présence. On a de la chance d'avoir certains intervenants qui viennent de loin et qui voilà qui commencent petit à petit à nous confirmer. Mais même par exemple au niveau des intervenants, voilà, on sait qu'il y a certains élus, ils attendent de savoir si leur groupe vont leur permettre de participer ou non en fonction de ce qui va être dit cette semaine. C'est extrêmement flou. Il y a une part de surprise parce que voilà, comme si on va dire ce qui allait être dit dans les médias pouvait changer l'horreur de ce qui s'est passé ce jeudi soir à Lyon. Et avec ça, bon, voilà, des élus politiques hésitent en fonction du portrait qui est fait. Ce sera pas nouveau, mais c'est vrai que voilà, ce que je veux vraiment, le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que il faut pas oublier que les médias restent les médias, en tout cas sans parler je ne parle pas de ligne droite ni de CNews quand je dis cela. Et que voilà, s'ils décrivent un portrait parfois de Quentin qui peut correspondre à ce que Libération dépendrait pour une personne catholique, il ne faut pas s'étonner. Libération restera toujours Libération et il ne faut pas attendre plus de ces gens-là.
Effectivement, alors on essaie de rendre compte hein, de qui était véritablement Quentin et ce depuis donc ce meurtre qui a eu lieu, mais on voit qu'il y a un véritable combat médiatique. Vous d'ailleurs, Aliette Espieux, j'imagine qu'en organisant cet hommage, vous êtes au contact de certains amis de Quentin, peut-être même de sa famille. J'imagine que ces gens que vous êtes amenés à fréquenter confirment par leur comportement et leur profil qui était Quentin. Et donc, on est plutôt sur ce jeune homme décrit dans un premier temps, encore une fois, par ses proches ou par son avocat.
Oui, totalement. Enfin, je pense que tout le monde a vu les images très belles et bouleversantes de Domiti en train de témoigner, de Baptiste en train de témoigner. Enfin, je suis désolée, mais on n'est pas sur la personne, la caricature type de la personne qui va faire des descentes dans la rue. Enfin, faut arrêter deux secondes avec les portraits. Que Quentin soit un homme de valeur, avec des idées, qu'il aime son pays, qu'il ait son engagement, qu'il soit nationaliste, c'est un fait. Après, est-ce que aimer son pays, avoir des idées, devrait conduire à une mort certaine? Je ne pense pas. Donc ça, c'est vraiment un point. On décrit, en fait, si vous voulez, moi, ce qui me m'attriste, c'est qu'on décrit les personnes qui s'engagent pour leur paroisse, Quentin faisait beaucoup de maraudes, ça a été beaucoup dit. C'était quelqu'un de catholique pratiquant, donc il allait à la messe tous les dimanches. C'était quelqu'un qui aimait son pays. En fait, je ne vois pas en quoi ces trois points pourraient justifier l'abominable. Et au-delà de ça, en fait, on ne justifie pas en fait la mise à mort de quelqu'un dans la rue, même la mise à mort de quelqu'un tout court, quoi. Ouais. Surtout quelqu'un d'innocent.
Alors ça, j'espère que la gauche l'entend sincèrement, Aliette Espieux, parce que pour le moment, on a certaines réactions qui semblent plutôt se plier à cette version à gauche. On en a d'autres comme Jean-Luc Mélenchon qui réitère leur soutien à la Jeune Garde et qui continue de sous-entendre, voire d'affirmer clairement que toutes les méthodes sont bonnes pour lutter contre le fascisme, et donc y compris ces mises à mort selon vos propres mots.
Oui, mais c'est juste scandaleux. En fait, je suis désolée. Imaginez une seule seconde que ce soit l'inverse. Que ce soit l'inverse. En plus, tout à l'heure, vous en avez parlé avant que j'arrive, mais vous parliez du drame de l'affaire de Clément Méric, qui compare ça à l'histoire de Clément Méric, et ils nous disent, voilà, l'extrême droite tue beaucoup plus que l'extrême gauche. Alors déjà, on ne compare pas des morts, hein, je vais reprendre les mots de notre Premier ministre. Premier point. Deuxième point, ça n'a rien à voir. On ne va pas comparer une histoire de RICS, en plus liée notamment au stade, à une histoire de lynchage au sol. Enfin, ce n'est pas le même contexte, on n'est pas à la même époque. Même si c'était pas non plus il y a trois siècles. Et il y a un autre point extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'extrême gauche a plutôt l'habitude de mettre dans ce qu'il qualifie d'extrême droite à la fois les salafistes. Donc en fait, les morts issus, par exemple, des salafistes sont des morts issus de l'extrême droite. Donc ils mettent en fait derrière ce qualificatif de l'extrême droite un peu tout et n'importe quoi, et il ne faut pas l'oublier. Autre point important, s'ils veulent qu'on leur rappelle une histoire un peu sordide, je leur rappellerai qu'il y a 2 ans à Lyon, l'extrême gauche a tué, c'était au mois de février si je ne m'abuse, un jeune homme qu'il pensait être un néo-nazi dans la rue. Cette affaire, personne n'en a parlé,
ouais.
Parce qu'ils ont justifié que le type portait une bague avec une croix gammée. Cette fameuse croix gammée était in fine une croix de l'ordre de Malte. Et en fait, ce pauvre jeune homme était un métalleux qui avait donc une veste avec pas mal d'insignes, etc. Ils ont cru que c'était donc un néo-nazi. Ils se sont permis de le lyncher à coups de poing américain en plein jour. Cette affaire a été passée sous silence. Les médias n'ont absolument pas changé leur titre malgré le droit de réponse de la famille qui a quand même été respecté, puisque certains médias ont quand même mis en dernier paragraphe en bas de la page que la famille contestait ce qui avait été dit et que ça avait été prouvé finalement que ce jeune homme n'était pas néo-nazi. Mais en fait, si vous voulez, on n'est pas à Lyon sur la première histoire où la gauche se permet de tuer impunément et sans même avoir des preuves. Donc c'est faux. Non, l'extrême gauche, en tout cas la jeune garde, cette milice de la France insoumise, c'est juste une bande de racailles qui a besoin d'en découdre, qui a besoin de tuer. Ils ne s'attaquent pas simplement à ce qu'ils appellent l'extrême droite, c'est faux. Tous les ans, ils sont en train d'essayer d'attaquer le cortège de la Marche pour la Vie, qui est un cortège avec des femmes enceintes et des poussettes. Tous les ans, ils s'attaquent aux différentes réunions, que ce soit du Rassemblement national, des différents groupes politiques. Enfin voilà, c'est hyper malhonnête de leur part. Dans tous les cas, les images à chaque fois ont lieu. Il y a des dépôts de plainte, souvent classés sans suite, mais il y a des preuves sur la violence de l'extrême gauche, ouais, à Lyon et en France, partout en France d'ailleurs.
Et encore une fois, je pense que les Français ne sont pas dupes, et c'est pour ça, chers auditeurs, qu'on vous invite aussi à vous rendre ce samedi à Lyon, donc pour rendre hommage à Quentin et pour montrer que ce petit jeu de la polémique et puis du combat sémantique ne prend pas sur vous et puis sur nous, voilà, en général. Merci beaucoup, Aliette Espieux, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, on regrette cette petite coupure, mais je pense que le message est passé. Et puis, chers auditeurs, on vous donne évidemment rendez-vous samedi aux côtés d'Aliette, aux côtés de certains élus qui seront présents sur place à Lyon pour cet hommage. Merci et donc à très bientôt, Aliette Espieux.
À bientôt, merci Liselotte.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette matinale avec nous. On était ravis de pouvoir vous offrir cette information, mais si vous voulez qu'on puisse continuer cette mission, il faut s'engager à nos côtés.
Voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre, vous le savez. Chers auditeurs, vous êtes les seuls financiers de Radio Courtoisie. Pour privilégier notre indépendance et que nous puissions continuer sans avoir recours à la publicité ou aux subventions, il faut aider Radio Courtoisie et rejoindre la grande famille en allant sur soutenir.rc.fr. Je vous redonne l'adresse soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Merci à ceux qui donnent déjà. Quel sera le programme du jour, Franck ?
Restez bien avec nous dans quelques instants en direct au fil des pages de Benoît Mancheron. Aujourd'hui, la crise de lecture en France et dans le monde. À midi, le libre journal des économistes d'Olivier Mérès. 17h30, le RC Mag de Jean-Étienne Posa. Aujourd'hui 2026, la France au bord du précipice économique. Alerte et solutions avec Marc Toiti. 17h30, le Restons courtois du jour avec Arthur de Vatrigan. 19h30, le libre journal de la résistance française dirigé lui par Bernard Anthony, 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer, pour Grandeurs et misères de Guillaume Brune. Voilà Liselotte.
Un beau programme, et nous on se retrouve demain au micro d'Alexandre de Galzin. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à lundi.
À demain, oui, vous à lundi, et nous à demain 7h.